Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir. Je suis ravie de vous retrouver pour ces deux heures de confidence et d'émotion. Je vous le répète souvent, nous sommes des êtres faits d'émotions. La partie intellectuelle de notre cerveau ne gère que 15% de ce que nous faisons. L'autre, la partie émotionnelle, gère 85% de qui nous sommes. Nous sommes donc tous des hommes et des femmes remplis d'émotions. Joie, tristesse, colère, dégoût, peur, surprise. Vous les connaissez toutes, bien sûr. Et si ces émotions existent, c'est pour être exprimées. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas comment les exprimer ni auprès de qui. À ce moment-là, toutes les larmes qui n'ont pas pu couler, tous les mots qui n'ont pas pu être dits, restent coincés à l'intérieur. Et vous le savez mieux que moi, ça fait des nœuds. Alors ce soir encore, je vous invite à libérer vos émotions, à défaire les nœuds, tout simplement en parlant, en venant me raconter des morceaux de votre vie. Je suis là pour vous écouter, vous comprendre et dans la mesure du possible, vous aider, avec le soutien aussi de tous ceux qui participent chaque soir à cette libre antenne par SMS. Pour prendre cette parole et exprimer vos émotions, vos soucis, vos préoccupations, un seul numéro de téléphone, le 3921. Théo et Frédéric vous attendent au standard Europe 1. Et puis vous participez justement par SMS tout au long de l'émission. Vous faites le 739-21 en commençant votre message par le mot « nuit ». Ce soir encore, baissez les lumières et rejoignez-moi dans cet espace chaleureux de confidence sous la houlette de Fabrice Fougerousse qui réalise notre émission.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Sous la houlette, eh bien, je me suis demandé justement en l'écrivant d'où venait cette expression. Elle est apparue dans le courant du XIIIe siècle et fait référence à l'élevage de moutons. La houlette, c'était le bâton dont l'extrémité était recourbée et qui était utilisé autrefois par les bergers. Fabrice, tu es donc notre berger ce soir. Et donc ma question est la suivante, quelle est votre expression préférée? Quelle est votre expression préférée? Répondez-moi si ça vous amuse par SMS 739-21, suivi du mot nuit et de votre réponse. À tout de suite. Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Marianne. Bonsoir à vous, Marianne.
Bonsoir, Sabine. Voilà, j'ai besoin de vos lumières ce soir. Je suis très perturbée. C'est à propos de mon fils qui a 40 ans. Excusez-moi.
Respirez, Marianne, prenez le temps. On a tout le temps, je suis là pour vous. Respirez, prenez le temps de respirer.
Bon, merci. Donc, il a une petite fille de 5 ans et un petit garçon.
Oui.
Donc, alors l'année dernière, on a un groupe de WhatsApp, donc j'ai 4 enfants, on a un groupe WhatsApp toute la famille. Et l'année dernière, sur le groupe WhatsApp, il a envoyé une photo. Et c'était parce qu'il habite à peu près 5 ou 6 heures de chez nous dans le sud, il fait très chaud. Il a envoyé une photo de la petite, elle avait 5 ans à l'époque. Elle était nue sur son vélo. Et lui, on voyait son pied sur son genou et la culotte de la petite qui pendait à son orteil. Et il a marqué « Il fait chaud ici ». Bon, ouais. ça peut-être rien de voilà,
c'est limite,
rien de
grave. Hein. C'est limite quand même.
Ben voilà, et moi ça m'a perturbée quoi. Ça m'a un petit peu, j'avoue, ça m'a fait ressortir mes émotions comme vous dites.
Ouais, ben oui.
Et donc après, bon, on les voit pas très souvent, hein, mais quand on y va surtout souvent pour une semaine pour garder la petite. Et donc, ça m'a assez interpellée, cette photo. Et après, j'étais assez attentive à ce qui se passait, à comment il agissait envers les petits. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que souvent, il est très affectueux. Il leur fait beaucoup de bisous dans le cou, beaucoup de... Mais c'est un garçon très, très gentil, hein, adorable, même avec nous. Hein,
jusque-là, tout va bien. Juste une question. Si vous êtes sur un groupe WhatsApp, est-ce que d'autres personnes ont réagi de la famille à cette photo?
Non, personne.
Tiens, c'est curieux.
Oui, mais bon, vous allez peut-être comprendre au fur et à mesure que je vais vous expliquer.
D'accord.
Donc là, après, on y est retourné au mois de février. Et pendant un moment, bon, moi, j'étais dans la cuisine. Il y a une petite barrière et lui, il était dans le salon. Il jouait avec la petite, mais gentiment. Hein, il la chatouillait et tout. Et pendant un moment, j'entends qu'il lui dit « Je te renifle. Attention, je te renifle. » Alors voilà, bon, je savais pas comment il était par rapport à elle. Hein. Ben, je le voyais pas, je l'ai juste entendu.
Il y avait que le son, oui, pas l'image.
Voilà, c'est ça. Et ça aussi, ça m'a un peu choquée. C'est pour ça que je voulais avoir vos lumières, savoir si... si j'ai raison de m'inquiéter, si j'en ai pas. Alors, ce qui se passe, c'est que le lendemain, je lui en ai parlé, parce qu'on dormait pas chez eux, on dormait chez son voisin, parce qu'il a pas assez de place pour nous loger. Alors, le lendemain, je lui en ai parlé. Comme par hasard, je me suis retrouvée avec lui toute seule, et je lui ai dit que la photo, franchement, ça m'avait un peu choquée, et ce qu'il avait dit hier à sa fille, c'était
très bien,
un peu pareil.
C'est une très bonne chose d'en avoir parlé.
Oui, alors il m'a dit, oui, ah bon, enfin, il était un peu surpris. Il était surpris et il m'a dit, t'as bien fait de me le dire, je ferai attention. Puis après, bon, son repas est arrivé, j'aurais aimé. On n'a pas pu continuer. Parce que moi, j'ai pas pu en parler avec mon mari. Hein. Et donc, voilà où j'en... Alors, je vous explique. Déjà, ce qui se passe, ce garçon-là, quand il était petit, il était assez battu par mon mari. Il était assez rabaissé. Et je me suis souvenue qu'il faisait des dessins. Enfin, je pense que c'est quand il était en maternelle. Qui était tout noir et dont le sexe était aussi long que les jambes. Et il se trouve que ces dessins, ça m'a toujours... C'était dans un coin de ma tête, j'arrivais pas à savoir pourquoi il faisait ces dessins. Et j'ai vu une psychologue il y a 6 mois, et je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, s'il a fait des dessins comme ça, c'est qu'il a été sollicité.
Bah, c'est révélateur, toujours, oui, bien sûr.
Vous pensez la même chose, vous ? Vous pensez que c'est qu'il a été sollicité, alors ?
Bah, je pense qu'un enfant n'invente pas un sexe de cette taille-là.
Oui.
Donc forcément, mais attention, après, il faut être très prudent dans l'interprétation. Sollicité, oui. Ça ne veut pas dire qu'il a été abusé. On peut lui avoir montré des images. On peut, il peut s'y passer plein de choses. C'est pas forcément, il faut faire se méfier beaucoup de ce qu'on en déduit, vous voyez.
Oui, c'est vrai.
Par contre, c'est une alerte, oui, ça c'est sûr.
C'est une alerte, oui.
Ouais.
Mais j'avais jamais trouvé la réponse.
Mais pardon, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous soupçonnez votre propre mari ?
Ben, ce qui se passe, c'est que... Alors, je vous explique, je continue l'histoire. C'est qu'il a atteint de la maladie Parkinson depuis 2008. Et il a eu un traitement, on a commencé un traitement. Et il se trouve que, je crois que c'est aux environs de 2010, un jour, on était partis en vacances avec on avait notre fille, qui à l'époque, elle allait entrer en prépa, donc... je me souviens plus.
19.
Donc elle avait passé son bac.
19,
voilà, ça peut être. Oui, donc on avait dû l'emmener avec nous parce qu'elle n'était pas bien. Justement, elle s'angoissait beaucoup pour sa rentrée en prépa. Et quand elle a un frère jumeau. Et quand on est revenu de vacances, son frère jumeau était resté à la maison. Il avait fait une grande fête avec tous ses copains parce que lui, c'était un fêtard. Bon, voilà, jusque-là, pas de souci. Et elle est montée dans sa chambre et elle est redescendue aussitôt nous disant il y a une caméra dans ma chambre et c'est papa qui l'a mise.
Ah.
Alors moi, je lui dis, mais c'est pas possible, écoute, ce n'est pas possible. Ton frère a fait, ça peut être que des amis de ton frère, il avait invité, je crois, 30 personnes, bon, la maison est grande, mais ils avaient tout déménagé. Et je lui dis, non, c'est pas possible. Enfin, moi, dans ma tête, je vous assure, Sabine, dans ma tête, ce n'était pas possible que c'était
mon mari. C'est vrai que ça paraît plus plausible que ce soit des jeunes qui aient fait ça.
Ben absolument, mais elle était sûre d'elle. Et donc, elle est partie, elle a appelé une amie, elle était dormir chez une amie pendant quelques jours. Et après, elle est revenue, j'ai essayé d'en parler avec elle, bon, pas moyen, bon, plus personne n'a reparlé de cette histoire. Mais moi, je soupçonnais toujours un ami de mon fils, quoi. Quelques temps après, je sais plus si c'est quelques mois ou je sais plus, mon fils, bon, qui était toujours, lui qui dormait, qui était toujours à la maison, qui vivait toujours à la maison, est venu me voir me disant, maman, papa, j'étais avec mon ami dans ma chambre et papa a regardé à la fenêtre. Et il faut que je te dise aujourd'hui que la caméra dans la chambre de ma sœur, c'était notre père. Voilà. Et là, moi, je suis tombée des nues. Voilà. Mais alors, par contre, il avait un traitement pour Parkinson. Bon, moi, j'ai appelé tout de suite les neurologues.
J'allais y venir. Vous savez que ça peut déclencher certains excès, notamment sur le plan sexuel.
Oui, ça, on est d'accord. Mais pourquoi sur les enfants ? C'est pour ça que tout ça s'est revenu, vous voyez, avec l'histoire de mon fils, le dessin, ma petite fille, mon fils qui aurait été sollicité. Moi, je suis complètement perdue, voilà pourquoi je vous appelle. Je ne vous cache pas, j'ai vu une psy il y a un an et demi, mais elle ne m'a pas emmenée sur le chemin que je voulais. Après, j'en ai vu une deuxième qui, elle, m'a dit pour le dessin, mais elle me l'annonçait. Enfin, c'était assez brusque, quoi. Et j'ai été plusieurs jours sans pouvoir dormir. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais j'ai été très naïve, vous voyez. Maintenant, je me rends compte que j'aurais dû être plus...
Rentre dedans.
Mais non, plus attentive, plus à l'écoute. Je ne sais pas ce que j'ai loupé, mais j'ai dû louper plein de choses, quoi.
Pourquoi vous me dites que la psy ne vous a pas amené sur le chemin où vous vouliez aller ? Vous vouliez aller où ?
Parce qu'il se passe, c'est que, bon, c'est vrai que j'ai de gros problèmes d'entente avec mon mari.
Le vrai problème, il est là, semble-t-il.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que la première, pourtant, elle était, enfin, je veux dire, j'ai aucune critique à lui faire, mais à un moment, elle m'a dit, écoutez, bon, maintenant, je vais vous aider pour quitter votre mari. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas, il est malade, je ne peux pas quitter un homme malade, enfin. Et puis moi, je ne veux pas, comment dire, je tiens, parce que les enfants aiment beaucoup leur papa, si je quitte leur papa alors qu'il est malade, moi, je ne les verrai plus, bon. Donc c'est pour ça que je l'ai quittée, mais sinon elle était très bien. Mais comme j'avais besoin de voir quelqu'un, je suis allée en voir une autre, mais alors là, au bout de deux séances, j'ai trouvé que c'était violent, quoi. C'est vrai que je lui posais la question, j'attendais une réponse, et il me l'a fallu la réponse. Mais elle me l'a dit d'une telle manière, vous voyez, elle ne l'a pas dit comme vous, par exemple, l'interprétation du dessin. Du coup, je suis plus retournée la voir et j'ai plus vu personne. Voilà pourquoi je vous appelle ce soir, parce que je vous écoute très souvent et je suis un peu perdue, quoi. Et là, j'avoue que je n'arrive plus à dormir. Je sais plus ce que je vais dire à mon fils parce que je lui ai proposé d'aller le voir en juin parce que normalement j'ai la petite en vacances au mois de juillet, mais ça va faire trop long, il me manque, c'est petit. Donc j'ai proposé d'aller les voir en juin, juste un week-end pour pas les encombrer. Mais c'est que je sais pas comment je vais agir envers lui. Je sais qu'il est mal à l'aise, hein. Je l'ai eu sur WhatsApp, je vois bien qu'il est mal à l'aise. Je sais plus, je suis perdue.
Oui, je comprends, parce qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. J'ai l'impression que le présent se superpose au passé.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Et que peut-être le curseur n'est pas au bon endroit à chaque étape. C'est ça qu'il faudrait qu'on voit ensemble, là. Donc, si je comprends bien, là, si on met tout à plat,
oui.
La première alerte, c'est que vous avez trouvé des dessins de votre fils quand il avait quel âge? Vous m'avez dit 5 ans à peu près, non?
Non, mon fils, quand il avait, oui, je pense qu'il était en maternelle, voilà, oui, à peu près. Et je les avais gardés longtemps, ces dessins, et après j'ai fini par les jeter, j'aurais pas dû.
D'accord, donc je pense que vous les avez en tête, hein.
Ah ben je les ai en tête, mais le problème c'est que des fois je doute, vous voyez, quelquefois, je doute de ce que j'ai dans la tête, je me dis, mais est-ce que j'ai pas rêvé, est-ce que j'ai pas exagéré, est-ce que...
Non, je pense que le dessin, vous l'avez vu tel quel, là où il faut être extrêmement prudent, je vous dis, c'est sur l'interprétation. Donc pour l'instant, l'information numéro 1, c'est qu'il y a eu des dessins.
Oui.
Qui ouvre un questionnement, on va dire.
Oui, tout à fait, d'accord.
Ça ne veut pas dire que votre fils a été violé par son père, pas du tout.
Non, c'est pas ça du tout que je veux dire.
Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose.
Non, moi j'ai entendu solliciter. Donc solliciter, ça ne voudrait pas dire violer. Non, ça, je n'irai pas jusque-là. Non, franchement, non.
Même solliciter, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire, une fois de plus, oui. Qu'il peut simplement avoir vu une photo.
Ah oui,
qui peut avoir vu son père tout nu.
Ah oui.
Ou quelqu'un d'autre.
Oui, parce qu'on se promenait tout nu. Oui, c'est vrai.
Donc ça peut être pas plus que ça, si vous voulez. Là aussi, il faut être prudent là-dessus et ne pas diaboliser forcément tout de suite.
Ben, on est d'accord. Oui. Ben là, du coup, vous me rassurez, parce que moi, vous voyez, j'étais allée dans... Pas jusqu'au viol, bien entendu, ça, non. Je sais que non. Enfin, je sais. Je le sens pas. Mais je ne savais pas jusqu'où c'était allé. Et puis après, des fois, on se fait des idées.
Donc ensuite, rien à signaler pendant très longtemps, finalement.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi... Non, rien à signaler, mais le comportement... Parce que j'ai aussi deux filles, deux garçons.
Oui.
Et j'avoue que... j'en ai une qui a 37 ans, donc. Et elle n'est pas stable. Vous voyez, elle est... Bon, elle est, comment dire? Et puis même amoureusement, elle n'est pas stable. Il n'y en a aucun des trois autres qui sont stables. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose quand même de malsain, quoi. Je ne sais pas, pas de malsain, mais... Voilà, et ma fille, là, l'autre qui a 37 ans, bon, elle m'a beaucoup haïe, elle m'a beaucoup voulu. J'ai jamais su exactement pourquoi. Juste une fois, enfin, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, c'est parce que je croyais que tu étais jalouse de ma relation avec papa. Voilà ce qu'elle m'a dit.
Oui, on sent dans la famille un socle pas très stable avec cette histoire. Enfin, c'est pas tellement une histoire de problèmes sexuels, je pense que c'est lié à la personnalité et la maladie de votre mari.
Oui.
Quelque chose de pas sécurisant pour les enfants, à la base.
Oui, il n'y avait pas de sécurité. Oui,
il a quel âge aujourd'hui, ce monsieur?
Vous parlez de mon mari?
Oui.
63 ans.
Et il est malade depuis combien de temps?
2008. Oui, il n'était pas malade avant, mais c'est vrai qu'il était assez, comment dire, assez instable quand même, assez coléreux, coléreux et très impulsif, voilà.
Quand vous avez, alors étape numéro 2, quand vous avez appelé son neurologue pour lui faire part de vos doutes, est-ce qu'il vous a expliqué qu'on pouvait changer de traitement quand il y avait des problèmes comme ça?
Ah oui, il lui a changé du jour au lendemain. Il a eu très peur.
Et alors?
Il lui a changé du jour au lendemain. Et après, ça a changé le comportement. Oui,
mais
bien entendu.
Est-ce que ça a été pour vous l'occasion de parler avec votre mari de vos craintes de ça?
Oui, mais lui, il se cache toujours derrière le médicament. Alors en fait, il ne s'est pas du tout rendu compte... de fait que ça a pu avoir sur moi. Il me dit, de toute façon, je suis malade, c'est des médicaments, je n'y suis pour rien. Et les enfants vont dans son sens.
Il a raison, sauf que il y est pour rien, mais on a un arsenal médical qui permet de changer les médicaments qui ont des effets secondaires comme ça.
Oui, ben là, ils ont changé. Il les a changés.
Je n'y suis pour rien, il a des limites aussi, vous voyez.
Oui, mais je suis d'accord, et je me dis qu'il y a un terrain. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ces médicaments, mais qui n'ont pas le même agissement. Moi, je me dis qu'il y a un terrain.
Oh, ça, pas forcément, méfiez-vous. Ce sont quand même des médicaments qui jouent sur le cerveau. On sait que ça peut déclencher des addictions au jeu, quelquefois aussi.
Oui, aussi, c'est le même. C'est le même médicament.
Chez des gens qui, oui, je connais bien ça, chez des gens qui n'ont pas du tout d'antécédents ou de terrain. Donc, ça, c'est pas forcément l'explication. C'est juste ce traitement-là. Maintenant, l'histoire de la caméra, est-ce que quelqu'un lui en a parlé dans la famille? J'ai l'impression que personne n'ose rien lui dire à ce monsieur.
Ah non, personne. Mais il dit qu'il ne l'a pas regardé. Hein. Moi, je lui en ai parlé. Et je veux bien le croire. Il a juste installé. Il m'a dit c'était juste un fantasme. Je ne l'ai jamais regardé. Et je suis prête à le croire. Je pense qu'il était sincère, franchement.
Et il a quand même reconnu que c'était un fantasme.
Ah oui. Ah oui. Enfin, je pense que. Enfin, je crois que. Oui, il m'a dit. J'ai compris que c'était un fantasme. Je ne sais pas s'il l'a dit. Mais j'ai compris que c'était un peu, comme un fantasme.
Ouais. Mais donc, il est quand même borderline à chaque fois. Hein.
Mais il a ses limites, hein, je crois. Oui. Parce que, voilà, il faut vous dire aussi que une fois, on avait eu, comment vous expliquer, il était artisan et on avait une apprentie. Et la jeune fille de 16 ans, un jour, sa maman est venue voir me disant « Elle ne veut plus venir travailler chez vous parce qu'il n'arrête pas de lui toucher les seins. » Voilà.
Donc effectivement, là, en dehors de sa maladie, il a quand même une tendance
oui.
à...
Voilà, ah, oui. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, je veux dire sexuellement, si par exemple, un jour, je n'avais pas envie de faire l'amour, il m'embêtait tellement que j'étais obligée de céder parce qu'il tenait pas, quoi. Voilà, donc il y a quand même eu des problèmes à ce niveau-là, oui.
Il a des pulsions bien avant le traitement en Parkinson.
Oui, il a eu des pulsions avant.
Ah, voilà, alors ça change la donne, effectivement. Pardon, je n'avais pas compris ça. Je pensais que ça avait
démarré. Oui, non, mais je ne vous l'avais pas dit. D'accord. C'est vrai que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ça.
Je comprends, et c'est pas facile pour vous, ça remue tellement de choses.
Oui, c'est vrai.
Donc, il y a forcément quelque chose de compliqué qui a été vécu par les enfants, parce que même s'il ne s'est rien passé de grave, entre guillemets, il y avait effectivement une ambiance qui n'était pas très saine.
Oui, voilà, je crois. Et ça, c'est la psychologue, ma première psychologue qui me l'a fait comprendre, parce qu'elle m'a dit, pourquoi votre fille a tout de suite accusé son papa, qu'elle n'a pas... Elle n'a pas dit, son frère avait reçu des amis, plein d'amis, 2 jours avant. Pourquoi elle a tout de suite dit, c'est mon père, c'est vrai. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait certainement une ambiance.
Il y avait une ambiance, puis ce sont des enfants qui ont dû... Vous savez, un enfant entend tout, voit tout. Beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et ils ont dû certainement, vos 4 enfants, entendre ou voir des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre ou voir.
Ah, peut-être.
Très probablement. Donc forcément, ça crée quelque chose comme un terrain instable. Ensuite, pour en revenir à votre fils, jusqu'à ce qu'il soit papa, est-ce qu'il y a eu des comportements qui vous ont choqué de sa part à lui?
Pas du tout.
Jamais, donc rien.
Non, jamais j'ai eu de tout.
Donc,
juste cette photo.
C'est là où
même
je dis,
avant.
Ouais, attention, parce que cette photo réveille des émotions.
Oui.
Et du coup, vous pourriez ressentir, comment vous dire ça, au présent, des émotions qui appartiennent au passé.
Oui.
Si on enlève toute émotion là tout de suite, il y a une photo qui est gênante. Moi, je vous avoue que moi aussi, spontanément
c'est
comme ça,
on est d'accord.
Je trouve ça gênant. Et en même temps, je connais des gens qui sont comme ça, qui se promènent tout nus dans leur maison, qui ont des photos de leurs enfants un peu sans faire très attention. C'est pas forcément révélateur de quelque chose de malsain. Mais si vous plaquez le passé par-dessus, forcément, ça fait bondir. Là, je comprends.
Oui, puis s'il était habitué dans cette ambiance-là, pour lui, ça ne le choque pas. C'est ça que je me dis, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Oui. Vous savez, depuis le mois de février, j'ai beaucoup réfléchi. Donc je ne le condamne pas, parce qu'en plus, il a plein de qualités, quoi. Il est honnête, il est... Je sais bien que j'ai rendu malheureux, en plus, en lui parlant de ça. Alors c'est pour ça que je vous appelais, parce que je ne sais pas plus comment agir envers lui.
Qu'est-ce que vous lui avez dit précisément concernant cette photo?
Je lui ai dit précisément que cette photo-là, j'avais trouvé que c'était limite, justement, que ça ne m'avait pas plu, que je trouvais qu'il ne respectait pas sa fille. Voilà ce que
d'accord. Et quand il y a eu cette histoire de Gilly, je te renifle, vous avez jeté un œil quand même ou pas?
Non.
Pourquoi?
J'étais pétrifiée. Je ne sais pas.
Ah oui, d'accord. Donc c'est,
j'étais c'est... franchement... Non. Non.
Ouais, ce qui se passe, c'est... Je pense que ça réveille chez vous des blessures qui n'ont pas été soignées à l'époque.
Oui.
Et que du coup, ça prend peut-être des proportions qui n'ont pas lieu d'être.
D'accord.
Je dis pas que ça n'a pas lieu d'être. Je dis
non,
peut-être,
mais tant mieux.
Peut-être.
Franchement, je préfère.
Peut-être. Parce que c'est un... Un petit peu dérangeant, me semble-t-il, mais pas forcément.
Ça, pas je veux dire. Ça.
On peut tout à fait chahuter avec un enfant Lui dire je te renifle, le faire le chien, chatouiller, enfin, après tout ça, ce sont des jeux.
Oui,
s'il n'y a rien de malsain dedans, changez le filtre si vous voulez. Si vous changez le filtre en gardant la même scène, elle n'est pas spécialement choquante.
Oui, c'est vrai. Et puis quand je lui en ai parlé, si vous voulez, il m'a dit t'as bien fait de m'en parler si ça te gêne. J'ai bien vu que. Il s'est rendu compte qu'il est peut-être allé un peu loin quand même.
Donc ça, c'est plutôt.
J'ai bien fait de lui en parler.
C'est très bon signe, effectivement. Alors, autre question.
Ah, non, mais.
Quelles sont vos relations avec la maman, avec sa femme ?
J'ai des relations qui ne sont pas mauvaises.
Est-ce que vous pourriez éventuellement, un jour, en parler avec elle ?
Non.
Non, pourquoi ?
Comment vous expliquer ? Non, je ne crois pas que je pourrais en parler avec elle. Parce que, comment dire ? Non, elle le condamnerait, je crois. Non. J'ai peur qu'elle ne comprenne pas.
Je pense toujours que c'est important de mettre des mots. C'est pas une question de parler avec elle pour accuser, mais de dire simplement, écoute, moi, ça me choque ce genre de photo, et toi ? Juste pour ça, j'aime pas ça, ça m'est mal à l'aise.
Ah ben, elle, je sais pas si elle l'a vu. Ah ben, elle est aussi sur le groupe, elle a dû la voir.
Ben, logiquement, oui, c'est ça.
Oui. Mais elle y était pas à une époque, elle s'est mise après.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut soulever un sujet délicat sans en faire des tonnes, simplement en disant, en parlant de soi et de son ressenti.
Je pense pas que ça la choque, elle. C'est juste pour avoir la réponse, si vous voulez que je lui pose la question, juste pour savoir son ressenti.
Qu'elle comprenne le vôtre et que vous voyez comment elle réagit, parce que ça peut aussi vous apaiser si elle vous dit « bah oui, il fait tout le temps l'imbécile avec les enfants, il est tout le temps comme ça ».
C'est vrai qu'il fait souvent l'imbécile avec les enfants. Des fois, je le trouve limite, franchement. Non, mais c'est vrai.
Oui, mais vaut mieux ça qu'un père qui s'en occupe pas du tout en même temps.
Ah oui, mais je le condamne pas. Franchement, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'il faut aussi que je le rassure, parce que je crois que celle-là, un petit peu... J'ai vu l'autre fois, j'ai lu sur WhatsApp qu'il était un peu... Enfin, qu'il en avait un peu contre moi, quoi. Donc, il faut qu'on en reparle.
Il n'y a qu'avec des mots qu'on peut arriver à avancer. Ce qui est délicat, c'est que vous ne pouvez pas expliquer à vos enfants, et je le comprends, les problèmes sexuels que vous avez eus avec votre mari, ou que lui a eu.
Parce que s'ils sont au courant, je leur ai dit, au sujet de l'histoire de Parkinson,
du médicament, mais pas des déviances, ou en tout cas des pulsions qu'il avait avant.
Non, je ne pense pas qu'il soit au courant.
Et ça, je comprends que ce soit très difficile d'en parler. Mais simplement, je pense que ça peut être à cause de ça que vous surinterprétez, que vous surréagissez au présent. Attention, une fois de plus, je ne vous dis pas de ne pas être vigilante. Soyez-le toujours.
Mais ça pourrait être vigilante, je suis vigilante.
Oui, j'ai bien compris, mais n'interprétez pas tout avec les filtres du passé.
Ah oui, il faut que je vous explique aussi. Oui, parce que c'est vrai que je suis un peu très... par rapport à la petite, c'est vrai que j'avoue que je l'ai mise très en garde. Parce que moi-même, j'étais élevée par ma grand-mère et j'ai eu des problèmes avec un oncle.
J'allais vous demander comment s'est passée votre enfance à vous. Parce qu'on sent qu'il y a une sorte de base,
il y a une souffrance,
comme si on appuyait sur un bouton et que tout ressortait d'un seul coup.
Oui, et puis j'ai peur pour la petite, j'ai très peur, c'est vrai, c'est ça aussi
qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ce qui m'est arrivé, en fait, j'avais un oncle qui venait tous les week-ends et qui me chatouillait tout le temps, il était toujours après moi, c'est vrai. Et à l'âge de 12 ans, un jour, on est allé cueillir des cerises et il m'a allongé par terre. Bon, je vous raconte la scène, hein, mais bon, j'ai... Et il m'a enlevé ma culotte et il a été prêt à me violer. Et moi, je me suis tellement débattue, je lui ai donné un grand coup de pied dans le sexe. Et ça lui a fait tellement mal qu'il était obligé de s'enlever. Et moi, je suis partie. Voilà, c'est allé jusque-là. Je n'ai pas été violée, mais c'était vraiment limite, quoi. Mais voilà, je suis une battante. J'ai réussi à m'en délivrer et ça m'a donné une force énorme, quoi. Mais par contre, je me rends compte... Et c'est vrai que mes filles, je les ai mises en garde aussi, parce que j'ai eu assez peur pour elles, mais pas tant que ma petite fille. Je ne sais pas pourquoi, ma petite fille.
Parce que vous avez moins de regard sur elles, vous êtes moins là.
Ah oui, peut-être.
Vous ne savez pas ce qui se passe, et puis c'est un rapport différent avec un petit enfant comme ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, maintenant que j'entends un peu votre histoire, je peux comprendre qu'il y a cette espèce de suractivation, de surréaction par rapport à un événement.
D'accord.
Et que peut-être, est-ce que vous êtes toujours... Ah ben non, vous m'avez dit que vous ne voyez plus de thérapeute pour l'instant parce que la seconde n'a pas été...
Non, on a beaucoup de mal. C'est pas facile à trouver des bons thérapeutes. Puis toujours raconter son histoire, arriver à un moment, c'est un peu compliqué.
Oui, je comprends
aussi
ça.
C'est un peu compliqué, voilà.
Mais simplement déjà de prendre vous-même la distance en comprenant que certes, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, d'un peu, parce qu'en plus c'est dans l'air du temps en ce moment, on en parle tellement.
Oui, c'est ça. Oui.
Du coup, ça devient.
Et c'est bien, il faut.
Bien sûr que c'est bien. Mais en même temps, il ne faut pas surréagir à des choses qui sont aussi des choses de la vie. Un papa qui chahute avec sa petite fille, c'est pas forcément un inceste.
Non, mais je suis sûre de ça, que ce n'est pas un inceste. Mais c'est que je voudrais pas que ça aille plus loin, d'une part, et puis voilà. Je pense qu'il faut mettre des barrières des fois.
Je pense que le fait de lui avoir dit, c'était une très bonne chose déjà.
Oui. Et puis, oui, mais il est quand même mal à l'aise maintenant par rapport à moi. J'ai peur qu'il soit mal à l'aise. Et puis,
Est-ce que vous interprétez ou est-ce que vous avez constaté qu'il est mal à l'aise?
C'est moi qui est mal à l'aise, peut-être.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Là encore, vous voyez, vous superposez vos émotions sur lui.
Oui, c'est ça. Oui. Non, mais il faut qu'on en reparle. On peut pas aller. De toute façon, on peut pas. Il va falloir que je trouve un moyen de lui parler toute seule et lui demander. Voilà, après, peut-être lui expliquer ce que vous m'avez dit, dire que je suis allée, ou lui demander d'écouter l'émission, peut-être. Ça.
Pourquoi pas? Lui faire comprendre que peut-être vous êtes en train de rejouer des scènes du passé et que vous interprétez le présent avec le filtre du passé et que forcément, ça déforme.
Oui. Bon, par rapport à ça, bon, c'est bien.
Et qu'en même temps, c'est tout à fait compréhensible. Mm-hmm. Quand on a vécu ce que vous avez vécu à titre d'enfant et ensuite de femme, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, il y a de quoi.
Oui, bien sûr.
Il y a de quoi. Donc, soyez une fois de plus, soyez indulgente avec vous-même, s'il vous plaît, déjà.
Hein, oui.
Vous avez traversé beaucoup de choses et il est logique que vous soyez en... C'est marrant l'image que j'ai de vous. C'est, vous savez, le chat qui met les griffes dans la prise et qui a tous les poils à la verticale.
C'est ça. Oui, c'est peut-être ça. C'est vrai que je suis en super vigilance. C'est vrai que par rapport à ma petite, quand je vais la garder et tout, et même j'aurais dit faites attention. J'étais franche avec eux, j'aurais dit faites attention même aux amis, aux meilleurs amis, parce qu'ils savent très bien ce qui m'est arrivé. J'aurais expliqué, hein, même à ma belle-fille. Et c'est là que j'aurais dit à votre fille, pour votre petite fille, soyez très vigilante au niveau des amis. On n'est jamais assez vigilant.
Ah, mais là, je vous rejoins complètement. En plus, quand il y a un climat comme ça dans une famille avec des répétitions, évidemment, il faut être vigilant. Mais une fois de plus, être vigilant ne veut pas dire surinterpréter.
Non.
La vigilance, c'est ça, on est entièrement d'accord là-dessus, c'est évident. Mais attention à ce que vous voyez, au filtre que vous mettez.
Oui. On va très bien.
Ça me paraît vraiment important de comprendre ça, parce que quand on interprète tout avec un filtre d'une blessure qui n'est pas cicatrisée, d'une peur ancienne, voire plus qu'une peur d'ailleurs, on n'est pas forcément en face avec la réalité.
Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je vous appelais, pour avoir un éclairage, parce que là, je n'endors plus. Je sais plus où j'en suis, quoi. Je sais plus quoi penser. C'est vrai qu'il faudrait que je retrouve une psychologue, mais c'est pas évident. Déjà, on a des rendez-vous assez loin.
Oui, c'est ça.
Et trouver quelqu'un qui soit un peu compétent.
Parce que je pense qu'avant d'attaquer l'avenir, il faut vraiment régler le passé.
Donc il faudrait que je retrouve quelqu'un pour parler de tout ça.
Pour parler de ce qui vous est arrivé petite, de ces relations avec votre mari qui sont quand même extrêmement difficiles et toujours sous le signe de quelque chose de pas très sain, d'instable,
oui,
en tout cas.
Vrai. Parce que ce qui m'arrivait quand j'étais petite, c'est presque réglé. Bon, j'arrive à vous le raconter sans trop d'émotions. C'est fait.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le sans trop d'émotions. Elle était très bien contenue, bravo, mais elle était là quand même.
Oui, mais quoi en faire? Qu'en faire de cette affaire maintenant? Il y a très longtemps. Qu'en faire? Enfin, c'est le passé, c'est comme ça.
Ah, il y a du travail. On travaille en thérapie là-dessus, sur le passé. Le passé, c'est comme ça, trois petits points. Ça s'appelle mettre un drap par-dessus, si vous voulez.
Oui.
Mais quand il y a encore ce qu'il y a sous le drap, on n'est pas beaucoup plus avancé après.
Oui, mais c'est vrai que là, je ne sais pas comment avancer, justement. Je ne sais pas. C'est pour ça que la première thérapeute, qui m'a, je pense, était quand même très. Comment dire, très, très bien, mais je n'ai pas réussi à l'emmener sur le. Je n'ai pas emmené sur le bon chemin.
Merci.
Pour m'aider.
Oui.
Voilà. C'est ça, j'ai. Mais c'est vrai que je suis pleine de souffrance en même temps. C'est vrai que par rapport à mon mari, c'est compliqué aussi.
Alors, en attendant de trouver une thérapeute, ce que je peux vous conseiller comme petit exercice à faire chez vous, j'essaie de trouver des solutions hors cabinet de thérapeute.
Oui.
En ce qui concerne déjà cet oncle-là, vous allez revisiter la scène sur votre écran, sur votre écran interne, mais avec les ressources que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez aller parler à cette jeune femme, jeune fille que vous étiez, lui dire qu'elle a été géniale, qu'elle s'en est drôlement bien sortie, qu'elle est plus forte que cet abruti qui était un détraqué, Et vous voyez des choses comme ça. Allez parler à cette partie de vous qui a vécu ça, pour lui dire, voilà, regarde aujourd'hui, on a été plus fort que lui. C'est vraiment un sale type.
Oui, bien sûr.
Il ne mérite pas que je reste sa victime, certainement pas.
Oui.
Hein, c'est comme aller réconcilier une partie de vous-même.
Oui, bien sûr.
C'est important aussi ça, quel que soit le problème, ce qu'on se raconte à nous-mêmes, et Dieu sait qu'on s'en raconte des choses à longueur de journée avec cette petite voix à l'intérieur. Ce qu'on se raconte à nous-mêmes, c'est extrêmement important.
Oui.
Donc, ayez la compassion pour cette... Quel âge aviez-vous à ce moment-là, vous m'avez dit ?
J'avais 12 ans.
12 ans, oui, c'est ça. Ayez la compassion pour cette petite fille, mais aussi, aussi l'admiration, parce qu'elle s'en est vachement bien sortie.
Mais j'en ai, parce que je pense que la force que j'ai... Enfin, j'ai quand même... Je pense que j'ai assez de force, je la tire de ce qui s'est passé.
Probablement, bien sûr.
Mais moi, point barre, c'est tout ce que j'en tire de cette histoire. J'aurais aimé en tirer autre chose, mais... Ouais, que des choses... Que des peurs, après, c'est ça. C'est que des peurs, en fait. Je me rends compte que ce ne sont que des peurs.
Ça aussi, les peurs, il faut les exprimer. Plus on les exprime, plus elles diminuent.
Oui, mais si je me trompe, vous voyez, là, j'ai peut-être alerté mon fils pour rien.
Non, c'est pas pour rien, parce qu'une fois encore, c'est vrai que c'est dérangeant.
Oui,
donc, de toute façon, si c'est pour rien, ça n'a pas de conséquences. À un moment donné, il faut faire simple. S'il n'y a aucun risque, aucun danger, ça glisse, il n'y a pas de problème.
Oui.
Et comme je répète souvent, tant qu'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème.
Oui, c'est
sûr. Eh oui, mais à un moment donné, le bonheur, c'est d'arrêter de s'en créer aussi.
Donc, oui, tout à fait.
Soit il n'y a pas de problème et ça va glisser, soit il y a quelque chose de pas très net et ça permet de mettre un warning.
Oui.
Donc dans tous les cas, vous avez bien fait.
Bon, mais très bien. Parce que je commençais à culpabiliser aussi un petit peu.
Et puis je pense qu'il y a un gros travail à faire avec vous sur ce qui se passe avec votre mari. À la fois ce comportement qu'il avait avant d'être malade. Et puis je vous ai entendu dire quelque chose de très lourd tout à l'heure. Il est hors de question que je le quitte parce qu'il est malade.
Mais oui.
Et oui, mais ça c'est... Et oui, mais c'est lourd ça.
Oui, c'est lourd. Oui. Et oui, mais c'est pas facile. C'est vrai. Enfin... C'est aussi que je ne veux pas mettre les enfants. Je pense qu'ils m'en voudront et ils auront raison. Si je quitte leur papa, ils m'en voudront et ils auront raison. Et moi, ne plus voir mes enfants, je pense que je le vivrai très mal.
Je comprends, mais en même temps, c'est tellement pas juste.
C'est vrai.
Sous prétexte qu'il est malade, c'est vous qui subissez tout.
Oui, mais c'est que j'ai beaucoup réfléchi.
Oui, j'imagine.
Mais voilà.
Et il en faut de la force pour surmonter cette situation-là.
Oui, tout à fait.
Vous la trouvez où, cette force, maintenant ?
Ben, je sais pas. Justement, je crois que je suis en train de craquer. Mais bon.
Laissez sortir les larmes.
Voilà, ça passera.
Ça passera pas tout seul. Ça passera si vous arrivez à vous faire aider, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que la digue est en train de lâcher et que c'est pas forcément un mal.
Oui, Et vous pensez que peut-être il faut que je retourne la voir, cette femme qui essaie de me guider sur ce chemin, mais ça me paraît tellement compliqué.
Dans quel sens ça vous paraît compliqué ?
Dans quel sens ça me paraît compliqué ? Mais j'ai l'impression que même si je le quitte, je ne serais pas heureuse sans lui. Parce que je m'inquiéterais toujours pour lui, quoi.
Ah, je ne vous dis pas de le quitter. Je vous dis de vous faire aider pour vous positionner dans cette situation. Vous savez, souvent j'explique ça, quand on ne peut pas changer une situation, et là vous n'allez rien pouvoir changer. On peut changer la manière dont on se positionne, nous, dans la situation. C'est-à-dire passer une sorte d'accord avec vous-même pour avoir une bonne distance émotionnelle par rapport à lui, par rapport à tout ça.
Mais je crois que je l'ai, parce qu'en fait, je me protège. Parce que, bon, je travaille encore, je tiens toujours à travailler un petit peu, même si je suis à la retraite. J'ai beaucoup d'amis, je fais beaucoup de sport.
Ah ben voilà, elle est là, la ressource.
Oui, normalement je l'ai, c'est pour ça que je comprends pas. C'est que depuis que j'ai eu cette vigilance avec mon fils que je commence à craquer. Mais sinon, jusque-là, j'arrivais à trouver mon équilibre. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique. Hein.
J'entends ça. Alors, vous avez réussi à trouver votre équilibre ? Oui et non. C'est-à-dire que vous avez basé votre équilibre sur un socle qui n'était pas très stable.
Oui, certainement. Oui.
Et là, ce qui s'est passé a fait bouger ce socle pas très stable. Et vous me dites que tout s'écroule, les digues sont en train de lâcher. Ben oui, parce qu'un véritable équilibre, il se construit sur des choses qui ont été réglées, pas sur des blessures béantes.
Et ça, vous pensez que ce sont des blessures béantes ?
Ah ben là, quand vous me parlez de ce qui s'est passé à 12 ans, Et puis ensuite de l'installation de la maladie de votre mari, est-ce que ça a pu déclencher comme dérèglement et comportement inapproprié, on va dire ? Oui, les blessures sont là et le socle n'est pas stable, évidemment. Le socle n'est pas stable parce que vous avez commencé à travailler dessus, mais que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure, j'ai pas été là où je voulais aller en thérapie.
Oui, c'est vrai. Et donc, c'est moi qui l'ai emmené sur le chemin pourtant. Voilà, c'est de ma propre responsabilité. Vous comprenez, cette thérapeute, elle m'a écoutée, elle m'a... Si je suis allée sur le mauvais chemin, c'est moi qui l'ai mal guidée.
Marianne, on s'en fiche de qui, de la faute de qui ?
Oui, mais c'est que si j'arrive pas à trouver elle est pleine de bonne volonté pour m'aider, mais elle pourra pas m'aider si je l'aide pas, vous comprenez ? Et j'arrive pas à l'aider, comprenez-vous ce que je veux dire ?
Pourquoi vous n'arriveriez pas à raconter à quelqu'un ce que vous m'avez raconté ce soir ?
Ben, j'ai raconté la même chose pourtant.
Ben alors, donc ça mène sur le même chemin ?
Oui, alors. Qu'est-ce que je vais raconter de plus ? Si, je vais raconter ça aussi, la même chose.
C'est pas à vous de trouver le chemin, c'est à elle de vous le montrer, hein ?
Oui. Alors donc, c'était peut-être pas la bonne. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre.
Vous n'allez pas en plus vous culpabiliser en disant « j'arrive pas à lui montrer le chemin », c'est pas à vous, c'est pas à vous. Encore un petit truc de plus à mettre sur vos épaules, c'est ça ?
Non, je sais pas. Non.
Il restait un peu de place ?
Peut-être, oui.
Non, je pense qu'il est temps. Vous savez, quand les choses arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si ça lâche en ce moment, c'est qu'il faut que ça lâche. Sinon, vous allez vous rendre malade dans les années à venir. C'est pas le but.
Mais j'ai fait un arrêt cardiaque en 2018.
Ah bah tiens, ben voilà.
Oui. Et j'ai aucune maladie, hein. Ils savent pas d'où ça vient. J'ai fait une mort subite. Mais deux fois, short. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire.
Ça me surprend pas du tout.
Hein. Oui, et bon... Et aucune maladie, pas de problème d'artère, rien du tout. Ils pensaient que c'était génétique, et en fait, c'est même pas génétique. Mmh. Oui, je pense que c'est sous le poids de ça qui est ressorti. Donc bon, maintenant, j'ai un défibrillateur, donc tout va bien. Hein. Je continue quand même le sport et tout.
Oui, mais ça veut dire que voilà, ce qui se passe en ce moment est constructif et va être enrichissant. Ça lâche pour être reconstruit sur des bases solides. Vous allez vous reconstruire avec des nouveaux matériaux. Et pas de briques et de brocs en disant « ça va, tout va bien ». Vous connaissez le « jusque-là, tout va bien » ?
Oui. Hein ?
Sauf que là, maintenant, c'est fini. Vous allez vous reconstruire vraiment avec des matériaux solides.
Bon, je vais essayer.
Parce qu'il y a de belles années devant vous encore, avec tous ces enfants et ces petits-enfants autour de vous.
Oui, bien sûr. J'espère. Oui.
Mais évidemment.
C'est un tel bonheur, ces petits-enfants.
Ça, j'imagine. C'est une grande chance.
Oui, tout à fait. C'est une grande chance.
Alors, ne laissez pas le passé détruire votre avenir.
Bon, je vous remercie, je vais réfléchir à tout ça.
Prenez bien soin de vous, Marianne, et n'hésitez pas à me rappeler pour me donner de vos nouvelles.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Au revoir, Sabine.
Au revoir, Marianne. Et ma question du jour était, quelle est votre expression préférée ? Je partage avec vous les premières réponses qui me sont arrivées. Mon expression préférée, c'est « saperlipopette », nous dit Théodora. Je trouve ça très rigolo. Moi aussi, j'aime beaucoup « saperlipopette ». Martine nous dit « mon expression, c'est un coup de fil rend la vie facile ». Oui, pourquoi pas. Louis nous dit « j'adore l'expression être fier comme un paon ». Quand j'étais petit, je pensais que lorsqu'on était fier, on avait droit à des plumes colorées. Ça, c'est mignon. Et Camille nous dit « il pleut des cordes ». C'est une expression qui me fait sourire. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était des cordes à sauter qui allaient tomber du ciel. Et puis Alice qui nous dit « j'aime bien l'expression mettre de l'huile de coude ». Je la sors de temps en temps, ça me rappelle la fois où j'ai envoyé un stagiaire chercher un flacon d'huile de coude et où il y est allé. J'ai honte, mais ça nous a beaucoup fait rire sur le moment. Et c'est Marc que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous. Eh ben voilà, ouf, c'est dur de vous avoir. Ça a été dur.
Qu'est-ce qui vous amène Marc ?
Ben, j'ai téléphoné déjà il y a une année de ça, à propos des incestes que sur les enfants ou même d'autres personnes. Et c'est très dur à supporter. Le procès arrive dans pas longtemps, là. Et la maman n'y arrive plus. Moi, je suis un ami.
De quoi vous parlez ? Parce que là, il n'y a pas de sujet, là.
Ben en fait, on n'est pas suivi par personne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous ne me racontez pas l'histoire, je vais avoir du mal
en fait,
à vous comprendre.
Voilà, je vais vous... Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une amie à moi qui a trouvé du travail et elle est partie chez des gens. Et une personne a fait amitié avec la petite, qui lui a acheté des cadeaux, tout ça, et il en a profité pour faire des choses pas très bien. La maman est arrivée chez le monsieur en pleine action et elle m'a appelé et la petite s'est confiée à moi. Elle voulait se confier à personne d'autre sauf à moi.
Qui êtes-vous pour elle?
Alors, moi, je suis l'ami de sa maman, un ami ami. Hein.
D'accord. Pas l'amoureux, pas le petit ami?
Non.
Non, d'accord.
Un ami, voilà. En fait, on était en Corse, quoi. Moi, j'étais en Corse, elle est en Corse. Et je connaissais personne et on a fait connaissance en sophrologie. On faisait beaucoup de sophro. Parce que moi aussi, j'ai été victime d'une mort subite à 39 ans. Je porte un défibrillateur aussi.
C'est curieux comme similitude.
Oui, c'est ce que j'ai. Et j'ai fait une deuxième crise cardiaque au mois de juin, mais plus terrible. J'ai failli perdre une jambe gauche. Et cette situation empire de plus en plus. Je viens juste de passer à l'AH. Mais je me suis retrouvée à la rue. C'est très dur. C'est vraiment très dur. En plus, je dois repartir là-bas pour le procès. Je ne sais pas comment faire. On a contacté une association sur Marseille parce que là-bas, il n'y a rien. Ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de blocages et on a été obligé aussi de changer d'avocate pour la petite parce que la première, elle n'était pas terrible. Alors, elle en a pris une avec l'association sur le continent, mais là, elle m'a demandé que moi, je prenne un avocat ou une avocate sur Paris parce que apparemment, il m'accuse sur les dépositions.
Qui est il?
L'auteur. En plus, il est récidiviste. Il essaie de mettre ça sur mon dos alors que je suis un papa de 3 enfants. Je suis grand-père depuis le mois de février. J'ai un petit garçon, un petit dernier de 14 ans. Jamais ça s'est passé. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça surgit maintenant. Et moi, dans mon passé, il y a eu des choses très lourdes qui se sont passées. Je pense que la petite s'est confiée à moi parce que elle avait confiance en moi. Mais c'est très dur, quoi. Ce qu'elle m'a raconté, ce que moi, j'ai pas pu raconter en étant petit. Je me suis dit, cette gosse, elle est forte. Aujourd'hui, elle a 10 ans et elle veut pas parler tant que moi, je suis pas là, quoi. C'est dur. Je suis à Paris, ils sont en Corse. C'est très dur.
Attends, j'ai pas très compris. Très ils sont à Paris ou ils sont en Corse?
Moi, je suis à Paris.
Ah, d'accord, vous êtes à Paris, ils sont en Corse. Elle avait quel âge, vous m'avez dit, quand c'est arrivé?
8 ans.
8 ans.
Ouais.
Donc ça fait 2 ans que cette histoire traîne.
Ouais, ça traîne. Là, elle pensait passer au pénal, elle passe en correctionnel, elle ne comprend pas, c'est un récidiviste. Mais comme il n'y a qu'attouchement, parce que il n'y a pas eu. Elle a été expertisée et tout.
D'accord. Marc, il y a les informations qui arrivent. Si vous le permettez, on va marquer une pause.
Oui.
On va refaire un point sur tout ça et on va continuer notre conversation dans un instant.
Oui.
D'accord?
Oui. Oui.
Prenez le temps de respirer et on va se parler dans très peu de temps.
Merci
beaucoup Marc, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est donc l'heure des infos avec Sophie Tussaud.
As you can imagine, my family and I, comme vous pouvez l'imaginer, il nous manque énormément. Il était très aimé. Mon cher papa était une personne extraordinaire.
L'hommage ce soir du prince Charles à son père disparu hier. La vaccination des enseignants, un mensonge d'État pour le syndicat national des lycées et des collèges. Et puis en football, match nul ce soir entre Montpellier et Marseille.
Europe 1.
Bonsoir à tous. C'est samedi prochain que seront célébrées les obsèques du prince Philippe, décédé hier à l'âge de 99 ans, au château de Windsor. Une cérémonie à 15h, heure locale, qui débutera par une minute de silence national. Le prince Harry sera présent. Il fera le déplacement depuis les États-Unis où il est installé, mais sans son épouse Meghan qui attend un bébé. Les Britanniques, en revanche, ne pourront pas se rendre sur place en raison de la crise sanitaire, mais pourront la suivre à la télévision. Et tout à l'heure, en début de soirée, le prince Charles, très ému, a pris la parole pour rendre hommage à son père.
My father Mon père a servi ses 70 dernières années avec une dévotion remarquable, la reine, ma famille, le pays et tout le Commonwealth. Comme vous pouvez l'imaginer, il nous manque énormément. Il était très aimé. Mon cher papa était une personne extraordinaire. Il aurait été émerveillé face à toutes les réactions et les mots touchants qui ont été prononcés à son égard. Nous sommes très reconnaissants. Cela va nous aider à surmonter cette perte et cette période particulièrement triste.
Autre hommage militaire cette fois à la mi-journée. 41 coups de canon ont été tirés depuis la Tour de Londres au bord de la Tamise, les châteaux d'Édimbourg ou de Belfast dans l'enclave britannique de Gibraltar et sur les navires de la Royal Navy. Et ce afin de saluer la mémoire de l'époux de la reine Elisabeth II. Également dans l'actualité, la pression qui reste toujours forte sur les hôpitaux. Le nombre de malades hospitalisés dans les services de réanimation a encore grimpé ce soir, pour s'établir à 5769, le chiffre le plus élevé depuis un an et qui a progressé d'un millier en seulement deux semaines. La campagne de vaccination a connu cette semaine une accélération avec l'ouverture de vaccinodromes dans les stades et les hôpitaux militaires. Emmanuel Macron a promis l'ouverture de la campagne vaccinale aux enseignants à partir de la mi-avril, alors que les cours en présentiel doivent reprendre le 26. Un calendrier qui ne sera pas tenu pour Jean-Rémy Girard, enseignant et président du syndicat national des lycées et collèges.
Pour nous, c'est un mensonge d'État. C'est-à-dire quand on annonce et que tout le monde comprend, on va prioriser les enseignants. Enfin, je rappelle, on a fermé les écoles. Enfin, on a quand même fermé les écoles. Et là, on le voit venir gros comme une maison, qu'on va faire une réouverture dans des conditions strictement identiques aux conditions qu'on avait avant la fermeture. On voit pas très bien ce qu'on va changer. La vaccination, c'était quand même pour nous un élément essentiel de la reprise. Et si on se retrouve à vacciner les enseignants avec la deuxième dose mi-juillet, Vous comprenez bien qu'en termes de calendrier, c'est parfaitement stupide.
Jean-Rémy Girard, enseignant et président du syndicat national des lycées et collèges, avec Wendy Bouchard sur Europe 1. L'examen du projet de loi climat à l'Assemblée, après un débat animé, les députés votent ce soir la suppression de certaines lignes aériennes intérieures, et ce en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Sont visées notamment les liaisons entre Paris et Nantes, Lyon ou Bordeaux. La Convention citoyenne pour le climat avait réclamé de renoncer aux lignes intérieures en cas d'alternative de moins de 4h en train. Une cellule de crise interministérielle se tiendra lundi à la suite de l'épisode de gel qui a ravagé les cultures cette semaine. Annonce ce soir de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, sur Europe 1. Aujourd'hui, en visite dans une exploitation de l'Ardèche, Jean Castex a annoncé des enveloppes exceptionnelles et le déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles. Fin de garde à vue ce soir pour l'organisateur et le gérant d'un dîner clandestin hier à Paris. Plus de 110 personnes rassemblées la nuit dernière dans le 19e arrondissement ont été interpellées. Et dans l'affaire des dîners luxueux clandestins organisés par le chef Christophe Leroy et Pierre-Jean Chalençon à Paris, Mediapart a révélé que Brice Hortefeux y avait participé fin mars avec l'éditorialiste Alain Duhamel. L'ancien ministre de l'Intérieur reconnaît sa présence mais affirme qu'il s'agissait d'un déjeuner professionnel et qu'ils étaient moins de 6. Le football, 32e journée de Ligue 1, match fou à la Mosson ce soir entre Montpellier-Marseille. Score final, 3 buts partout entre deux prétendants pour une dernière place européenne. Et de part et d'autre, des sentiments contrariés entre enthousiasme et déception. Écoutez, l'attaquant et double buteur montpelliérain Gaëtan Laborde.
Voilà, après c'est le football, hein, ça arrive comme ça des fois, des moments où ça fait un beau match avec pas mal de buts, mais bon, voilà, on aurait aimé la victoire quand même. Mais du moment où on se retrouve à la 70e, à 11 contre 10, forcément on peut tirer des regrets de ça. D'avoir marqué, d'avoir pris du plaisir sur le terrain, c'est bien, et un peu frustré parce qu'on aurait aimé, avoir cette victoire sur ce match. Donc je pense que c'était assez plaisant à voir, plaisant à le jouer, mais bon, j'aurais pris encore plus du plaisir si on aurait gagné ce match.
Gaëtan Laborde avec Stéphane Frangy pour Europe 1 et un peu plus tôt le PSG a battu Strasbourg 4-1, les Parisiens qui continuent de talonner Lille. La météo, et on fait avec vous Valérie Darmon le tour du ciel de nos régions.
Eh bien, de la Bretagne et de la Normandie et Hauts-de-France, les pluies sont plus faibles et plus espacées. Des Pays de la Loire au bassin parisien, pluie de moins en moins soutenue. Au fil de la journée, sortez tout de même les parapluies. De la Champagne-Ardenne et du nord de la Bourgogne à la Lorraine, les averses restent rares et les passages nuageux alternent avec des éclaircies le matin avant l'arrivée de la perturbation sur les frontières de l'Est à partir de la mi-journée. Quelques averses circulent encore du Bordelais aux Charentes en matinée, puis plus du tout. Il neige en revanche sur les Pyrénées comme sur les Alpes, avec une limite pluie neige qui s'abaisse au fil du temps. Et les orages s'invitent enfin sur les Alpes-Maritimes dans l'après-midi. Les valeurs de ce dimanche après-midi, entre 9 à Charleville-Mézières et 20 degrés à Strasbourg, à Lyon et Chambéry, à Paris et Reims, il fera 10.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes, c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Pour la deuxième partie de cette Libre Antenne sur Europe 1, nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à partager, qu'il vous reste une petite heure pour appeler le 3921 si vous souhaitez venir me parler ce soir. 3921, vous tomberez sur Théo ou sur Frédéric qui vous guidera ensuite jusqu'à moi. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, de donner votre avis, d'apporter un soutien, de demander à être mis en relation avec quelqu'un, vous connaissez le chemin, 73921, suivi du mot nuit et de votre message. Et je vous rappelle notre adresse mail aussi, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je récupère Marc, vous êtes là Marc ?
Oui, toujours, oui.
Alors, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, oui. Il y a 2 ans, oui. La petite fille de 5 ans de vos amis...
8 ans.
8 ans, pardon, de 8 ans de vos amis, enfin de votre ami, parce qu'il y a un papa dans l'histoire d'ailleurs.
Ah, oh là là.
Ah, voilà. Ah.
Bah, le papa, il était sur le continent et la seule chose qu'il a su dire, c'est « t'as mis les mains de ma fille entre les mains d'un pédophile ». Il ne s'est pas déplacé, il n'est pas venu.
Mais ils sont séparés les parents ?
Ouais, ouais.
Ah d'accord, ok. Mmh.
Comme moi, pareil.
Donc cette petite fille qui est la fille d'une de vos amies proches,
oui.
a subi des attouchements par une connaissance, on va dire, de cette femme, de sa maman.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Et a senti le besoin de se confier à vous. Vous êtes le seul en qui elle a eu confiance pour se confier.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la petite? Quels ont été ses premiers mots?
Bah, déjà, moi, il faut que je vous dise, Sabine, quelque chose. J'ai prévenu un médecin à moi au mois d'août. Excusez-moi, parce que c'était au mois d'août 2018. J'ai dit, voilà, ce mec-là, quand il vient, il est agressif avec moi, je comprends pas, parce que moi, je suis très ouvert, je suis très sympa.
Ah, vous le connaissiez?
Pas de mal aux gens. Non, non, moi, je l'ai vu 3-4 fois.
D'accord.
Pas plus.
Ok.
Je l'ai vu une première fois parce qu'on a été faire des travaux chez son fils, de la peinture. Mm-hmm. Il n'était pas content parce que j'étais là. Et après, il est venu manger chez la main, quoi, chez mon ami. Il n'était pas content parce que j'étais là, alors je suis partie avant qu'il mange.
Mauvais feeling.
Et là, j'ai prévenu tout le monde en disant, écoutez, il amène la petite tout le temps, il lui achète des cadeaux tout le temps, c'est pas normal, quoi.
Vous le sentiez pas déjà, ce type-là ?
Non, ouais. Non. Il avait un regard aussi terrible.
Et la maman vous a entendu quand vous avez dit ça ?
Bah, elle m'a dit que j'étais paranoïaque, que c'est pas parce que dans ma famille c'est arrivé que ça devait arriver à elle, quoi, à sa fille.
Ouais.
Et c'était au mois d'août et au mois de janvier, le 7 janvier exactement, 2019, elle m'a appelé en me disant viens à la maison, il s'est passé quelque chose. Et là tout de suite, je lui ai dit c'est Léna. Et pardon, j'ai dit ouais, bon, c'est pas grave. Et voilà, et la petite, elle disait je veux parler qu'à moi, quoi, qu'à Marc. Et voilà.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, quels ont été ses mots?
Elle m'a dit, il m'a fait des bisous sur la bouche et il m'a fait mal là. Et elle m'a montré son sexe.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment avez-vous réagi?
Elle m'a montré son sexe. Elle m'a montré
j'ai bien compris, oui.
Oui, oui, non, mais attention, les mots, ça joue.
C'est vrai, vous avez raison, dans un contexte comme ça,
il faut être... Moi, quand j'ai été interrogé par les gendarmes, déjà, la gendarmerie, ça caille dedans. Moi, je peux vous dire que vous n'êtes pas fiers d'être là, quoi. Moi, je sais pas, quoi. Je suis tombé dans un truc, déjà. Même ma sœur, elle m'a dit, mais comment tu vas faire? Déjà, toi, t'as pas pu parler petit. Ça me fait du bien dans un sens, et dans un autre sens, ça me fait du mal.
Mais je comprends. Mais
ça, parce que moi, j'ai pas pu parler, moi. J'ai pas pu. J'étais traumatisé, j'étais... Mes parents étaient très alcooliques quand j'étais jeune. J'ai construit ma famille, je suis resté 20 ans marié, j'ai jamais eu de problème. Dès que j'ai eu la première crise cardiaque, j'ai divorcé, c'était bizarre, quoi. Dès que je suis sorti du coma, je voyais plus les mêmes choses. Je voyais plus les mêmes choses qu'avant. Des petits détails qu'on croit que c'est pas important, mais l'accumulation des petits détails font qu'après on s'aperçoit qu'en fait, j'ai été heureux 20 ans, il n'y a pas de souci.
Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? La maman a porté plainte?
Ah oui. Le lendemain, elle est partie, la petite voulait aller à l'école, et la maman, elle a dit on va à l'école, mais il faut que je t'amène à l'hôpital. D'abord, on est parti à l'hôpital. Quoi, elle a porté plainte, on est parti à l'hôpital, voir un pédopsychiatre, après une gynéco.
Et donc, vous avez été entendu par la police en tant que quoi?
Témoin.
Témoin du récit, en tout cas, oui.
Oui, la maman est arrivée en catastrophe, et puis la petite était traumatisée, ce qu'elle m'a dit, la petite, obligée, parce qu'elle a parlé qu'à moi.
Et donc là où j'ai pas bien compris votre histoire, c'est que suite à ça, depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Rien?
Rien.
Ça traîne?
Oui.
Et pour quelle raison est-ce que vous le savez?
Oui, moi je le sais.
Ah, allez-y.
Bon, déjà la personne, elle est récidiviste. L'enquêteur, il est pas content. Il a dit, c'est pas normal qu'il soit dehors. Déjà. Mais là-bas, ça marche beaucoup en relation.
Ah, comprenez. Piston.
Comment?
Piston. Du piston, la protection de quelqu'un?
Oui.
D'accord. Donc vous me dites que ce monsieur est protégé et que ça va être compliqué de lui mettre la main dessus, quoi.
En tout cas, premièrement, c'est pas, j'ai pas peur, j'irai. Le seul problème, c'est que c'est mon état de santé, c'est pas trop bon, moi aussi, quoi. Je suis revenu à Paris pour mes enfants parce que mon état de santé est de plus en plus mauvais. Et puis, il faut dire que je me laisse aller aussi, quoi. Je suis très fatigué, je n'arrive pas à monter la pente. Et voilà, quoi.
Et est-ce que chez vous aussi, comme Marianne, ça réveille des choses du passé qui vous font beaucoup de mal, là, en ce moment?
Ah ben moi je suis bloqué depuis des années sur mon passé. Ce qui m'a fait du bien, c'est d'avoir construit une famille. Mais ces blocages, je suis passé par la sophrologie, par le MDR, je suis passé par, que ce soit par les psychiatres, par les cachets, ce que vous voulez, rien n'y fera. Ce qui peut jouer, c'est d'avoir une vie un peu plus équilibrée, comme vous avez dit tout à l'heure. Construire quelque chose sur quelque chose de stable, pas qu'il y ait des mauvaises choses et construire quelque chose, ça se casse la gueule au bout d'un moment. Quoi.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé là avec cette petite fille, ça a réveillé des choses précises chez vous?
Ah ouais, ouais. Ah
ouais, c'est ça a secoué un peu le volcan, quoi.
Ah ouais, ouais. Ah ouais. Moi, j'en peux plus, quoi. J'en rêve la nuit, on dirait que c'est un replay, quoi.
Mais là, concrètement, la maman est en attente d'une date de procès ou on en est où dans l'histoire, dans la procédure?
Là, elle a reçu une lettre comme quoi il passait en correctionnel et non au pénal.
Mais quand? Quand?
Là, dans les quelques mois qui vont arriver, apparemment, d'ici 2-3 mois.
Bon.
C'est ce qu'elle a dit l'avocate, après, je ne sais pas.
Et vous pensez qu'il y a une anomalie là, du côté du tribunal où il devrait passer?
Bien sûr.
Ouais.
Il a une protection, il travaille au tribunal. Je ne sais pas comment elle va faire. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas.
Attention à vous quand même, Marc, dans cette histoire. Je comprends que vous soyez touchée, mais vous ne pouvez pas vous laisser détruire comme ça.
Ben non, parce que bon, moi, en plus, ce n'est pas ma fille. Mais le problème, c'est même si ce n'est pas ma fille, ça aurait pu, déjà, parce qu'elle a 10 ans. Hein, j'ai trois garçons.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas occulter ça comme ça, maintenant.
Il ne s'agit pas de l'occulter.
La petite, elle a réussi, mais pas moi. Moi, je n'y arrive plus. Moi, à chaque fois, je dis à mes enfants, mais pourquoi je ne suis pas intervenu avant? Pourquoi, Marc, attendez.
Vous m'avez dit que vous l'avez fait. Vous avez sonné, tiré la sonnette d'alarme et personne ne vous a écouté.
Mais il fallait que je lui dise, vas-y, tire-toi de cette maison. Regarde ce qu'il fait. Moi, je sais pas, la petite, elle me demandait un truc, je lui disais tout le temps, t'as révisé tes tables de multiplication, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est la carotte, un peu, comme à mes gosses, quoi. Je sais pas, on mérite, quoi. C'est pas, tiens, je t'achète une trottinette, même si t'as mal travaillé cette semaine, c'est pas grave. Non, c'est pas... Je sais pas, La maman, elle en peut plus, elle me téléphone tous les jours, sauf là, elle est partie un peu ce week-end, j'étais content pour eux. Mais elle me téléphone, elle me dit qu'est-ce que je peux faire, t'es plus là, t'es pas là, bah ouais, je lui dis...
Mais vous n'êtes pas en état...
Moi déjà, il faut que je m'occupe de moi. Et
voilà, on est bien d'accord, Marc, vous n'êtes pas en état de tout porter comme ça.
Et ouais, c'est ça le problème. Mais bon, je suis pas égoïste, alors quand je pense à moi, c'est ça, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours pensé aux autres pour penser à moi, c'est bizarre. J'ai toujours fait passer les autres avant et ça me fait du bien.
Bah en l'occurrence, non, c'est ce que votre corps vous dit, non, ça c'est trop là.
Ah ouais, la jambe, elle ne suit plus.
Et ben voilà, donc s'occuper des autres, c'est bien, mais on s'occupe d'abord de soi pour tenir debout, hein. Vous le savez, ça.
Ah oui.
Si vous écroulez, qui va s'occuper d'elle?
Surtout mes enfants, quoi, surtout.
Vous savez, l'exemple qu'on donne très souvent quand il y a un crash aérien, et qu'on vous explique, l'hôtesse de l'air vous explique ce qu'il faut faire avec les masques à oxygène. Si vous êtes avec des enfants... Le masque, vous le mettez d'abord sur votre nez à vous. Parce que si vous ne tenez pas, vous n'allez pas pouvoir sauver les autres.
Oui, c'est pas mal. C'est vrai, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, non, on va essayer. On va essayer.
C'est bien d'être là, c'est bien de soutenir, c'est bien d'aider, de conseiller. Mais là, vous devez vous protéger, vous en prenez beaucoup trop sur vous. Mmh. Beaucoup trop.
Je vous remercie beaucoup, Sabine. C'est gentil.
Est-ce que vous avez envie de vous faire aider par un thérapeute pour en parler?
Ben oui, j'ai vraiment envie, mais le problème c'est moi j'ai un psychiatre, quoi. Mais je m'entends pas trop avec lui. Quoi. À part l'ordonnance, c'est tout ce qu'il sait faire.
Oui, puis c'est pas forcément lui qui est apte à vous faire une thérapie longue.
Oui,
tous ne le font pas.
Tout à fait.
Mais je pense que
c'est
ça vous
fait. Le chaussé.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les psychiatres ne font pas tous des thérapies. Mais vous pourriez trouver une psychologue ou une psychothérapeute. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être dites chez vous. Beaucoup d'émotions qui ont besoin d'être exprimées, comme je disais en début d'émission tout à l'heure.
Oui. Bah oui, en plus, avec le dernier trauma, là, c'est dur, quoi. Parce que je venais à peine de m'en sortir de la première crise cardiaque. J'en ai eu une deuxième. Et celle-là, elle a été vraiment très, très dure. Moins de coma, mais très dure.
C'est pour ça que je me permets de vous conseiller de ne pas garder tout ça à l'intérieur.
Ben, merci, Sabine.
Tout ce que vous gardez à l'intérieur, ça fait des gros nœuds, là.
Oui, je sais. Voilà, le sac à dos, il est lourd.
Alors, allez le déposer chez quelqu'un.
Pourtant, j'ai effectué mon service militaire. Hein. Je sais ce que c'est d'avoir un sac à dos lourd, mais là, il est vraiment lourd. Je vous remercie beaucoup. Et puis, si on peut m'aider, ça serait sympa.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous espérez ce soir, Marc?
Ce soir, je sais pas. Pas ce soir. Ce soir, j'espère avoir une bonne nuit parce que ça fait pas mal d'années là que j'ai pas trop dormi.
Non, mais quand vous dites si on peut m'aider, ce serait sympa. Vous pensez à quoi?
Je sais pas, une association ou quelque chose qui pourrait m'aider, au moins déjà moi, parce que comme je vous ai dit, moi, je suis à la rue. Je suis à la rue depuis. Depuis quelques mois, depuis le mois de janvier.
Dans quelle ville êtes-vous?
Paris. Je suis à Paris et le 115 me donne un hébergement qu'il faut partir le lendemain matin à 10h, mais j'ai des grosses affaires à porter, il faut que j'aille loin, il faut que, après aller se laver là, manger de l'autre côté. C'est horrible, c'est horrible. J'ai mon ami d'ailleurs qui m'appelle, qui me dit « Est-ce que tu tiens le coup ?» Je fais « Je sais pas, je tiens le coup. »
Est-ce que si, ouais. Si on trouvait quelqu'un, ça serait bien ça, qui peut vous proposer un hébergement en échange de petits travaux, par exemple?
Oui, ça me plairait. C'est ce que j'ai dit à mon ami. Ça me plairait, ouais, même si c'est loin. Quitte à partir, je suis capable.
Vous seriez prêt à aller n'importe où en France?
Ah oui.
Alors Marc, on va vraiment ouvrir cette grande chaîne de solidarité qui existe quelquefois sur cette libre antenne. Ouais, on va garder votre portable, si vous le permettez.
Ah oui.
Et si on a, parce que beaucoup de gens écoutent l'émission en replay, si on a des gens n'importe où en France qui sont prêts à vous tendre la main, à vous offrir un hébergement, quel qu'il soit, en échange de travaux, par exemple, je vous promets qu'on vous met en relation.
Merci, c'est gentil.
Vous êtes quelqu'un de très touchant, Marc, et je suis persuadée que quelqu'un va vous tendre la main.
Bah, je l'espère, parce que franchement, je vais tenir encore une semaine ou deux. J'ai trouvé un endroit où je peux m'abriter et tout. Où je peux être pas au chaud, mais au moins à l'abri.
Protégé, oui.
Parce que c'est trop dehors, c'est trop dangereux pour moi. Je me suis fait agresser plusieurs fois. La nuit, quand on s'endort sur un banc ou quoi, on se réveille, on n'a plus d'affaires à côté, on n'a plus rien, quoi.
Mais vous êtes orienté quand même dans des associations? Même les Restos du Cœur, vous savez, les Restos du Cœur ont des hébergements d'urgence aussi, hein.
Ce qui se passe là, c'est que il faut que j'aille dans une association parce que apparemment, comme je suis pas encore de Paris, vraiment, c'est ce qu'il m'a dit. Mais bon, on verra. J'essaie de faire les démarches le mieux que je peux. J'ai dû attendre les dossiers, les transferts de dossiers jusqu'ici. C'était très dur. Mais bah, je remercie si quelqu'un entend mon message, super sympa, merci beaucoup.
Donc je relance l'appel, vraiment, on a trois moyens de nous joindre. Les mails, libreantenne@europe1.fr, à l'intention de la Libre Antenne du week-end. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, Marc. Le téléphone, bien sûr, 3921, et les SMS 73921, en commençant par le menu. Si vous avez n'importe où en France un moyen d'héberger Marc contre des petits travaux, surtout, prenez contact avec nous et on fera le lien, c'est promis.
Pas que les travaux, le ménage, à manger.
Des coups de main, en tout cas, oui.
Ouais, oui, il n'y a pas de souci.
Quel âge avez-vous, Marc? Je ne vous ai pas demandé.
J'ai 48 ans. 48 ans cette année.
D'accord. L'appel est lancé, Marc, et je croise les doigts du fond du cœur pour que quelqu'un vous tende la main.
Merci, Sabine. Merci beaucoup.
Bon courage
merci à tous.
Bon courage à vous, Marc. Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones,
And this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
The Dock of the Bay, c'était Otis Redding. Et c'est Lina que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Lina.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien, oui.
Ouais, super. Je suis très enchantée de vous avoir au téléphone, Sabine Marin, parce que ça fait très longtemps que je vous, vous écoute de temps en temps.
Mm-hmm.
Et je trouve que votre analyse est très pertinente. Vous êtes quelqu'un de très professionnel.
C'est gentil, merci.
Je vous en prie. Et il faut le souligner, il faut dire des choses qui sont plaisantes et positives parfois. On a trop souvent tendance à dire les choses négatives plus que les choses positives. Donc, je vous appelle parce que, en fait, je suis un peu... je suis pas bien, complètement, dans le sens où déjà, confinement, etc.
Mm-hmm.
Et on m'a appris en 2019, parce que je suis tombée malade, et on m'a appris en 2019 que j'étais HP.
D'accord.
Et j'avais aucune notion de ce genre de...
2019, ça, vous avez quel âge, Lina ?
49 ans.
Donc vous l'avez su à 47 ans ?
C'est ça.
C'est curieux, quand même.
Oui, c'est très très tard, effectivement.
Alors pardon, je précise pour les gens qui n'auraient pas compris, HP c'est haut potentiel.
Oui, c'est ça, voilà. Haut potentiel. Après, j'ai pas fait de test, etc. Parce que il y a un gros dilemme avec les personnes qui sont HP ou pas. Il faut faire un test, etc. Bon, moi c'était pas mon souhait dans le sens où. Ou dans la mesure où je voyais comment je fonctionnais et que ma psy, parce que j'étais suivie, hein, j'ai pris une psychologue, et elle m'a dit vous avez un profil HP. Et à partir du moment où ça me donnait une lumière au bout du chemin, je me disais ah oui, oh là là, j'ai tout compris en fait. Enfin, j'ai tout compris.
Vous avez réinterprété les choses avec ce filtre-là, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, ah oui, ah, effectivement. Donc, parce que j'étais toujours triste, toujours...
En décalage aussi, non ?
Voilà, complètement. En décalage par rapport à tout. Et ça me portait vraiment une grande tristesse parce que j'étais jamais en cohésion avec les autres. Donc, je ne sais pas... Et donc, quand ma psy m'a vue, m'a dit, bah oui, mais vous avez peut-être un profil HP. Et en fait, elle m'a dit, vous êtes limite à aller en psychiatrie, quoi, parce que j'étais vraiment, vraiment décalée. Et je comprenais plus, je savais plus pourquoi j'étais, énervée. Contre les gens, je ne comprenais pas ce que les gens me disaient.
Comment ça se passait à l'école, par exemple, quand vous étiez plus jeune ?
Ah, quand j'étais plus jeune, alors, j'étais avec mes parents et j'ai eu une enfance très sympa, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais j'étais toujours en décalage, je ne sais pas, voilà, j'étais en décalage, mais ça me dérangeait pas plus que ça, parce que j'étais quand même très, comment dire, j'acceptais ce que j'étais la hiérarchie, je l'acceptais, je suis très, par rapport à mes parents, etc., très douce, J'acceptais ce que les gens me disaient, etc. J'ai pas de soucis par rapport à ça.
Mais au niveau de vos résultats scolaires, c'était comment?
Bah, c'était beaucoup en dents de scie. Oui, énormément. Et donc, voilà, j'ai évolué dans la vie comme ça, tranquillement, gentiment, mais toujours avec un petit truc qui y a un truc qui va pas, quoi. Mais bon, j'évolue, je fais mon petit bout de chemin, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est que ma maman est décédée, c'était elle le mentor. Et aujourd'hui, je m'affirme. J'ai 49 ans, je m'affirme. Je suis, bon, ça fait un certain temps, je suis très affirmée. J'ai été avec un pervers narcissique, etc., etc. Donc, j'ai avancé avec ça, j'ai appris, je me suis beaucoup documentée. J'ai toujours été suivie au niveau psy, etc., parce que moi, ça m'intéresse. Mm-hmm. Je m'intéresse, je suis très quelqu'un qui va chercher l'introspection, pourquoi me poser beaucoup, énormément de questions. Et donc, j'avance comme ça, tranquillement, gentiment. Et aujourd'hui, j'ai un blocage de par le confinement, déjà, parce que je n'ai pas d'activité, je n'ai plus d'activité aujourd'hui sociale et professionnelle. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que mes frères et sœurs sont très véhéments à moi, parce que je suis quelqu'un qui aussi va dire les choses de manière très franche. Mm-hmm. J'ai horreur de l'hypocrisie, je déteste ça. Donc, je vais dire les choses aux gens, et les très franchement, trop crûment peut-être, mais je dis les choses, parce que pour moi, je ne peux pas faire autrement, c'est pas possible. Donc j'ai changé aussi beaucoup, j'ai changé de travail très souvent, parce qu'à partir du moment où je maîtrisais mon travail, je m'ennuyais. Mmh. Donc, j'ai changé, etc. Et donc, avec ma famille, ce qui devient difficile, c'est que je n'ai plus de relation avec eux, finalement. Et ce qui me peine, c'est qu'aujourd'hui, je suis seule. Je suis seule, puisque je ne m'entends avec personne, en fait. Et ça devient pour moi quelque chose où je me dis, oui, Lina, tu es peut-être quelqu'un qui pense plus vite que les autres, qui voit les choses plus rudes, mais en tout état de cause, tu es seule aujourd'hui, en fait. J'ai parlé avec une personne du bouquin Cadeau au fardeau. Et en fait, c'est un fardeau aujourd'hui, parce que je suis vraiment toute seule.
Avec votre famille, ça a basculé depuis combien de temps, ces relations, quand est-ce qu'ils ont un peu coupé les ponts avec vous?
J'ai envie de dire depuis toujours, parce que je suis l'aînée, encore une fois. Et mes autres frères et sœurs, bon, j'ai un frère qui a un an de moins que moi et une sœur qui a 14 ans de moins que moi. Et un frère qui est autiste aussi. Donc, c'est très compliqué parce que non seulement on a une différence d'âge et en plus, on a une culture différente. Donc, il a fallu qu'on s'acclimate, entre guillemets, avec la culture française. Mais bon, moi, je suis arrivée à l'âge de 2 ans, mon frère, il avait 1 an. Et puis, les autres sont venus en France, enfin, sont nés en France. Mais le problème, c'est que c'est que mes parents avaient cette culture mauricienne, oui, on est devenus mauriciens, donc mauricienne. Et du coup, j'ai évolué. Ma mère m'a toujours dit, par exemple, Nina, tu seras toujours avec, mets-toi avec un Français, un médecin. Et je lui dis, mais maman, pourquoi un médecin français blanc, plutôt blanc, hein? Et je lui dis, mais maman, pourquoi parce que pour moi, voilà, moi, je suis... Enfin, j'ai pas de soucis par rapport aux gens, comment dire...
aux origines.
Voilà, aux origines. Mais bon, donc, elle m'a toujours dit, Nina, pour t'élever dans l'échelle sociale, il faut que tu sois avec un blanc et un médecin. Bon, après, j'ai compris parce qu'elle était gouvernante chez un médecin. Donc, voilà, elle voulait que...
Pour elle, c'était l'image de la réussite.
Oui. C'est ça, exactement. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais c'est dur quand même à comprendre. Et donc, elle me disait, bon, bah, et je la vous voyais, et je vous vois toujours mon père. Parce que Nina n'a jamais élevé les cochons ensemble. Bon, d'accord, maman, etc. Donc, il y a toujours ce sentiment d'avoir un combat. Enfin, au début, hein, pour moi, c'était un combat pour quand je suis arrivée en France. Bon, ben, il faut que je sois la meilleure, etc. Bon, effectivement, j'ai une peau basanée, etc. Normal, mais voilà, elle m'a demandé d'être plus forte que les autres, etc. Et je l'en remercie, hein. Je ne lui en veux pas pour ça. Mais toujours est-il que aujourd'hui.
Oui, pardon, mais je me dis, être épouser un homme blanc et médecin, ça ne veut pas dire être plus forte que les autres. C'est curieux son discours quand même.
Elle, pour elle, il fallait que je sois avec un blanc et en l'occurrence médecin. Oui. Bon, pour être au-dessus, pour me donner.
J'ai bien compris, mais ça n'est pas vous inciter à développer vos compétences à vous, quoi.
C'est ça.
C'est pas
exactement. Ouais, ben oui. Je suis d'accord. Mais c'était sa vision à elle et c'était pour nous aider. Mais après, moi, j'ai pris ma situation en main. Il n'y a pas de problème, j'ai fait des choses. Hein. Donc, j'ai été secrétaire, après j'étais commerciale. Et j'étais dans le combat, en fait. J'étais vraiment dans le combat. Et donc, j'ai été commerciale. Et puis, je suis quelqu'un d'intelligent. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et donc, par exemple, dans un challenge, j'ai été à Las Vegas. J'ai eu un challenge à Las Vegas, etc. Et je lui ai envoyé une carte en lui disant, bah, voilà, maman, voilà, j'ai réussi, quoi. Enfin, voilà, je suis... Et elle m'a toujours... Elle a dit que j'étais Madame Chancelor.
Madame quoi?
Madame Chancelor. Vous savez, dans les soaps, là.
Non, ça ne dit rien, celui-là.
Non, alors c'est un soap qui... c'était... Ah, Les Feux de l'Amour.
Ah oui, non, je suis désolée, j'ai jamais regardé Les Feux de l'Amour, je ne connais pas.
Ah, dommage pour vous, madame. Mais non, voilà, c'est un soap et voilà, c'est madame Chancelor et voilà, madame, la madame, quoi.
La madame, quoi. D'accord.
Moi, la madame, qui, les trucs. Et ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal parce que finalement, j'ai tout fait pour essayer d'être bien, de réussir. D'être la fille, pas la mieux, mais celle qui réussissait. Et entre guillemets, j'ai réussi. Hein, je suis pas en train de parler avec Emmanuel Macron ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai tout fait. Et malgré tout, et ben, aujourd'hui, elle n'est plus là. Et les personnes m'en veulent énormément parce que... Enfin, je parle de mon frère et de ma sœur, en l'occurrence, m'en veulent énormément parce que Parce que je ne sais pas, parce que j'ai été mieux qu'eux, parce que, etc.
Mais enfin, je pense que si vous êtes au potentiel, vous ne fonctionnez pas de la même manière qu'eux. C'est comme si vous ne parliez pas la même langue, finalement.
Mais oui, mais c'est fatigant. Donc, il faut que je fasse. C'est ça, le truc. C'est que, OK, peut-être je suis au potentiel. Je ne sais pas, je n'ai pas fait des tests. Mais alors, comment je dois réagir? Je serai toujours évincée. Toujours. Et là, je suis toujours évincée de toutes les fêtes, de tous les machins, tous les bidules. Et même moi, je ne suis pas en cohésion avec eux. Hein. Et je suis triste parce que je ne peux pas, je ne sais pas comment faire.
Vous voyez, Lina, il y a Marie qui envoie un message pour vous et qui dit « Pourriez-vous dire à Marie que les hauts potentiels s'entendent avec les hauts potentiels ? Entre nous, on se comprend.
Ouais. » Ouais, mais je suis d'accord. Mais trouver des hauts potentiels, c'est compliqué aussi parce qu'il n'y a pas marqué HP sur notre front. C'est ça le truc. Et donc, on ne sait pas se détecter entre hauts potentiels.
Moi, je pense que si, assez rapidement, quand même. Il y a des atomes crochus qui se font facilement.
C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en même temps, je suis triste parce que mon père est atteint d'un cancer et que finalement, mes deux autres frères et sœurs sont plus attachés sur l'argent de mon père que sur son bien-être. Et ça me...
Ah, ça, c'est encore autre chose, oui, effectivement. Est... Oui.
Non, mais en tant qu'au potentiel ou pas, d'ailleurs, on peut être très empathique. Oui, je suis très empathique. Je suis quelqu'un qui pense aux autres avant soi. Et puis, faire plaisir aux autres, ça me fait plaisir à moi et c'est ça qui m'apporte du bien-être. Et donc, du coup, je suis très peinée et je comprends pas, quoi. Je sais pas. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais
bon. Vous êtes la combientième dans la fratrie ?
Je suis l'aînée.
Ah, vous êtes l'aînée en plus. Il me semble que si vous avez l'impression que quelque chose déraille avec les autres... Concernant l'argent de votre père, il faudrait peut-être intervenir quand même. Mettre un peu les pieds dans le plat et leur dire ce que vous pensez. Là, on n'est plus sur un problème de haut potentiel ou pas, on est sur un problème d'honnêteté, de sincérité.
C'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça, d'honnêteté, de sincérité. Et les gens m'en veulent parce que quand ils n'ont pas été là, et je ne sais pas si j'ai encore le temps, Sabine, dites-moi.
Hein, si, allez-y.
Mais quand ma mère est décédée du médiator il y a 12 ans de ça, c'était moi qui étais là. Ma sœur était trop jeune, mon frère était à la Réunion et personne n'était là. J'ai été là, j'ai souffert toute seule, j'ai dû aller la voir toute seule tous les deux jours à l'hôpital. Et j'ai pris en charge mon frère qui est autiste. Et aujourd'hui, ils me disent que j'ai volé l'argent de mon frère, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, j'ai abusé de mon père. Et c'est facile de dire ça. Vous n'étiez pas là, les gens. Vous voyez ? Et aujourd'hui, mon père est décédé.
Malade.
Oui, est malade. Et moi, j'aimerais lui apporter une douceur dans un accompagnement doux parce que demain, peut-être ce sera moi. Certainement, demain, ce sera moi. Comment les gens sont méchants, en fait.
Mais attendez, qu'est-ce qui vous empêche d'accompagner votre père, quel que soit le comportement de la fratrie ?
Parce qu'ils sont aidants. Maintenant, les deux, mon frère et ma sœur, sont aidants. Donc, ils sont payés pour être près de mon père, etc. Et ils m'ont complètement évincé du truc. Parce que j'ai une trop grande bouche, je suis carrée, je suis moins structurée, c'est comme si... Et comme je pense beaucoup plus vite, penser beaucoup plus vite qu'eux, il n'apprécie pas.
Il y a ce décalage qui revient encore là. Ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, je suis je suis complètement... Je ne sais pas quoi faire. Parce que quoi que je fasse, c'est mal. Quoi que je fasse, c'est mal. Et donc, par rapport à mon père, je leur ai dit, si vous pensez faire mieux que moi, très bien, je vous laisse faire. Je les ai laissés faire. Ça fait 2 ans qu'il est malade, et 9 ans qu'il est suivi. Je les ai laissés faire. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je me retire, pas de problème. Mais là où je suis un petit peu triste, c'est que déjà, mon père s'en plaint.
Il est où, géographiquement, il est où, votre papa?
Il est près de chez moi.
D'accord, il est près de moi, d'accord.
Oui, il est près de chez moi, mais moi, je ne veux pas y aller parce que les personnes sont vraiment vindicatives par rapport à moi, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et après, ils me disent, oui, t'as qu'à aller le voir, machin. Mais non, vous êtes les aidants, vous êtes des... En aidant, vous m'avez éjecté. Je peux pas... c'est trop facile. Vous voyez, c'est trop facile. S'ils sont les aidants, ils sont payés pour, et ils veulent... Et après, ils me disent, pourquoi tu vas pas? Non. Non.
Je comprends pas trop. Si vous avez quand même envie d'aller l'accompagner, d'être avec lui de temps en temps, où est le mal, où est le problème?
C'est parce qu'ils sont là. Ils sont là et que moi, je s'ils sont là, je ne peux pas... par exemple, Sabine, je fais à manger. Moi, j'ai une famille aussi. Hein. Je fais à manger, etc. J'apporte à manger à mon père régulièrement. Je lui achète des trucs régulièrement. Et je ne demande rien en contrepartie. Hein. On parle de quoi? On parle de 3 francs 6 sous à Carrefour ou peu importe. Mais et donc je fais à manger et donc ils disent elle a mis du poison dedans, il faut pas le manger, etc. Mais c'est méchant, c'est vraiment méchant. Je peux rien faire en fait, je peux rien faire sans avoir une et mon père le dit. Mon père est très permissif aussi hein.
Mais c'est ça, oui.
Il est très très permissif. Il est, c'est impressionnant comment il a. Mais après, maintenant, il s'en mord les doigts parce que plus il perd de son autonomie, plus il dit ah oui, ils sont méchants. Ma sœur, par exemple, pour Noël, elle a dépensé, elle avait procuration sur son compte. Et ma sœur lui a pris 2000 euros pour payer les cadeaux.
Oui.
2000 euros, Sabine. 2000 euros, on peut faire des cadeaux. On n'a pas obligé d'utiliser la carte de mon père. Oui. Ça fait beaucoup. Mais je ne veux pas lui en parler. Je ne lui en parlerai pas. Et ce n'est pas à moi de le faire.
Et comment vous l'avez su?
C'est mon père qui me l'a dit.
Vous me dites, je ne veux pas lui en parler. Si c'est lui qui vous l'a dit, c'est qu'il le sait.
Il le sait, mais lui ne veut pas lui en parler à elle.
Ah.
Parce qu'il a trop peur de sa réaction, etc. Mais, et donc, moi ça m'insurge. Moi, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais. Par respect, 2000 euros, c'est énorme. Je peux pas. C'est de l'abus de faiblesse, limite.
Le problème, c'est qu'effectivement, elle est comment on dit il est sous tutelle, votre papa?
Non.
Ah,
non. Il avait mis ma sœur. Moi, j'ai été, quand ma mère est décédée, alors c'est drôle, entre guillemets, hein, c'est drôle, parce que quand mon frère, autiste, devait avoir un tuteur, on est allé voir le juge des tutelles. Ma mère n'avait jamais fait ça. Et donc, on est allé voir le juge. C'était moi qui l'accompagnais, mon père. Et il était convenu que ce soit mon père qui soit tuteur. Hein.
D'accord.
Voilà. Il avait 60 ans à l'époque. Et le juge l'a entendu parler. Il a dit, ah non, vous n'allez pas être tuteur. C'est votre fille qui va être tuteur, parce que vous êtes déjà trop âgée. Mm-hmm. Ça va être votre fille. Oh là là, J'en ai subi des conséquences. Hein. Donc,
vous pensez qu'il y a une vengeance aussi de ce côté-là?
Bien sûr.
Ouais. Donc, si je comprends bien, vous êtes 4 enfants. Mmh. Donc, il y a un garçon autiste.
Oui.
Il y a vous et il y a les deux autres qui font front contre vous.
C'est ça.
Grosso modo, c'est ça l'histoire. Hein.
C'est ça l'histoire.
Et qu'est-ce que vous aimeriez...
je m'en sors pas.
Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement qui se passe maintenant? Comment vous aimeriez que les choses se déroulent?
Ben, en fait, moi... Après, voilà, c'est moi. Hein. Mais je pense, comme j'habite la même ville que le même bourg que lui, je pensais que j'allais l'accompagner dans sa maladie. Enfin, dans son voilà. Oui. Et j'allais être. Je suis l'aînée. Je suis aimante, etc. Bon, bref. Et donc, j'allais l'accompagner. Ils m'ont évincé.
Oui.
Ils allaient s'occuper. J'ai dit, OK, occupez. Très bien, réhabilitation de la part des deux autres. Très bien, vous allez m'en occuper. Vous en occupez, mais vous en occupez bien. Mais le bien, Sabine, c'est pas le bien de moi. C'est le bien de eux, mais le bien de moi, et j'ai un niveau de bien qui au-delà de leur niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le bien, c'est qu'ils soient bien, quoi. C'est qu'ils, vraiment, voilà, qu'on s'occupe de lui, qu'il soit chouchouté, même si c'est mon père et j'ai des choses à lui reprocher, etc. Y a pas de... Mais je suis dans l'excellence.
Enfin, mais alors, donc, pour être un peu concret, Lina, qu'est-ce que vous voudriez voir arriver là? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les choses changent et pour changer quoi? Une fois qu'on a le tableau de famille là, qui n'est pas réjouissant, qu'est-ce qu'on en fait?
Ben, on n'en fait rien.
Quelle est la marge de manœuvre pour changer des choses là?
J'en ai aucune.
Ah.
J'en ai aucune. Si ce n'est par rapport à mon frère autiste, où là j'ai repris la main. Où j'ai vu la psychologue du foyer, etc. On en a discuté et que lui, je vais pouvoir lui apporter quelque chose de sympatoche. Mmh. Mais ça m'attriste dans le sens où mon père, j'aurais aimé qu'il ait une fin de vie beaucoup plus sympatoche. Maman, j'ai pas pu l'aider. Je sais pas. Et puis moi voilà, je suis avec le confinement, je peux pas travailler, je peux rien faire.
Ça c'est autre chose. Mais sur l'histoire de la famille, est-ce que vous vous sentiriez capable de leur rentrer un peu dedans, de remettre les points sur les i et de reprendre votre place d'aîné?
Je l'ai fait à moult reprises, hein, Saline.
Ça fonctionne pas.
Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que sinon, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils m'en veulent énormément. Il y a de la haine. Il y a énormément de jalousie. Énormément. Et je ressemble à ma mère en plus. Et j'ai le caractère de ma mère. Enfin, j'ai une caractère véhément, etc. etc. Et ils m'en veulent énormément parce que je sais pas pourquoi en fait. Enfin, si. Parce que je suis quelqu'un qui dit les choses, qui dit mais attendez, pourquoi vous faites comme ci alors que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Bon, je suis un peu. Voilà, puisque je vois les choses.
J'ai bien compris le tableau général. Maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que vous êtes prête à voir partir votre père sans l'avoir revu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré, ça?
Non. Non. Bah non.
Donc, il faut trouver une solution.
Voilà.
Et oui.
C'est ça, mais le problème, c'est que lui... il ne sait pas dire à mon frère, à ma sœur, non, c'est comme ça, et non, il ne sait pas dire non, en fait. Donc, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il veut, lui.
Il n'y a personne d'autre dans la famille qui peut servir de médiateur, un oncle, un cousin?
Non.
Qui pourrait être moins impliqué affectivement, mais qui pourrait un petit peu cadrer tout ça?
Ben, moi, on m'a conseillé de prendre un... que mon père prenne un tuteur, Mais mon père ne le fera pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
Si ce n'est
pas possible.
Et si c'est vous qui demandez qu'il soit mis d'office sous tutelle?
Là encore, je me mets tout.
Oui, c'est la guerre, ça, c'est clair. Mais est-ce que ça peut être pire que maintenant, de toute façon?
À voir. C'est à voir. Mais encore une fois, c'est moi qui vais mettre de l'énergie dans ce genre de choses, alors que lui-même, mon père, ne veut pas forcément ça.
C'est pour ça que je vous invite à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est un combat que vous laissez tomber ou est-ce que c'est un combat que vous voulez mener maintenant?
Non, c'est un combat, effectivement. J'ai réfléchi longuement et c'est un combat que je vais laisser tomber. Parce que je dis, tant pis.
Tant pis.
Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Moi, j'ai voulu faire du mieux que je peux. Ils ne le veulent pas. Il ne le veut pas, lui, mon père.
Mais c'est ça.
Voilà, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire.
Si ce n'est vous cassez les dents à chaque fois dessus, quoi.
C'est ça. Mmh. Et moi me détruire petit à petit parce que j'ai toujours pensé et je penserai toujours, je pense, que la famille, c'est les personnes les plus importantes. Et ils sont toujours là pour moi et moi, je serai toujours là pour eux. C'est comme ça, ma vision des choses. Et en fait, je me rends compte que pas du tout.
Mais ça, c'est dans les feux de l'amour, absolument. C'est pas dans la réalité.
Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Je pense que c'est ça. C'était dans la fiction, en fait. Mais c'est dommage. C'est dommage. J'étais tellement impliquée et tellement dans les valeurs des gens. Les gens s'aiment et envers et contre tout, on s'aimera toujours. Et en fait, non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là où je me dis que dans la vie, on peut jamais faire confiance à qui que ce soit. Les gens interprètent, font des choses. Je sais pas, il n'y a pas de valeur, en fait. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins de valeur.
Il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que les rapports de famille semblent de plus en plus compliqués.
On est d'accord, alors. On est d'accord. Et moi, ça m'attriste. Parce que pour moi, j'aime penser que... J'ai toujours aimé penser qu'on pouvait faire confiance et qu'on pouvait toujours aimer sa famille, c'est son père, sa mère... qui nous ont mis au monde et qui on arrive, on évolue et ils sont venus en France pour nous. Enfin, voilà, c'est des choses fortes quand même. Et en fait, non, pas du tout.
Ce qui me rassure quand même, Lina, c'est que vous semblez avoir pris la bonne distance émotionnelle aujourd'hui par rapport à tout ça.
Oui, et Maxime me dit la même chose et oui. Ça, j'aime beaucoup. Mais il s'avère quand même que pour moi, je suis en grande, grande difficulté parce que la nuit, quand je dors, j'ai des angoisses.
Bah, j'imagine bien sûr.
Moi, voilà.
Lina, il va être 1h du matin, le temps est passé très, très vite.
Oui.
J'espère que ça vous a fait du bien de reparler de tout ça et puis de garder ce recul qui vous protège quand même, c'est important.
Oui, merci Sabine.
Et allez chercher sur Internet des réseaux de HP. Il y a des groupes qui se montrent, des groupes de parole, des groupes d'échange et tout ça. Ça peut vous apporter aussi quelque chose, un vrai soutien.
Oui, d'accord. Oui, merci Sabine. Merci beaucoup.
Prenez soin de vous.
Bonne soirée.
Merci, je vous embrasse.
Au revoir.
Et oui, il est presque 1h du matin, notre libre antenne en direct se termine dans quelques secondes. Merci à tous d'avoir été là, comme d'habitude, d'un côté de l'autre ou du poste. Merci pour vos nombreux SMS. Je vous retrouve demain dimanche à partir de 23h sur Europe 1 pour une nouvelle libre antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour, c'est mon sourire du jour celle-là. Le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer beaucoup mieux. Passez une très bonne nuit et à demain.